France Culture.
Le journal Mathieu Laurent, bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, une séance de questions à l'Assemblée nationale happée par la dermatose et la gestion de la crise par le gouvernement, séance suivie par Nicolas Ballu. Nous nous rendrons au Parlement européen, cette fois pour le vote des clauses de sauvegarde du traité du Mercosur demandé par la France. Des peines de prison ferme requises au procès du cimentier Lafarge, soupçonné d'avoir payé des groupes djihadistes en Syrie jusqu'en 2014, dont l'État islamique, dans le but d'y maintenir son activité en pleine guerre civile. L'organisation État islamique, qui est loin d'avoir disparu après la chute de son califat en Syrie en 2019, nous dira Claude Guibal. Dans ce journal, nous évoquerons également l'inquiétude du comité de soutien de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, de nouveau emprisonné en Iran. Et puis, la riposte de la BBC après la plainte de Donald Trump contre le groupe audiovisuel britannique pour diffamation. Ce sera une correspondance de Londres de Gaëlle Joly. Sur les points de blocage comme sur les bancs de l'Assemblée nationale, le gouvernement est comme gommé par une profession qui peine à se prêter un futur proche convenable, juste convenable. Au traité du Mercosur, dont nous allons parler dans un instant, est venu s'additionner les foyers de dermatose nodulaire contagieuse et les angoisses afférentes, à telle enseigne que les ministres concernés par la crise ont été convoqués à Matignon en matinée. Sébastien Lecornu a fait savoir qu'il demandait sans tarder une accélération de la vaccination avant de devoir le répéter devant les députés. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Nicolas, vous êtes en direct du Palais Bourbon, c'est rien de le dire. La représentation nationale n'a qu'une préoccupation en ce mardi 16 décembre, l'éradication de la maladie qui terrasse les bovins.
Oui, signe de l'inquiétude des éleveurs et des répercussions politiques possibles. La quasi-totalité des questions au gouvernement ont été dédiées à la dermatose, avec plusieurs passes d'armes, par exemple entre le député insoumis Christophe Bex et la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Nous avions alerté dès les premiers cas avec mon groupe La France Insoumise et proposé une politique sanitaire alternative. Vous n'avez pas écouté. La solution, c'est la vaccination, pas l'abattage.
Je ne vous ai pas entendu vous exprimer pour les agriculteurs, pour les éleveurs touchés par la maladie.
Nous n'avons toujours pas assez de doses, tout arrive toujours trop tard, s'inquiète la députée écologiste Marie Pochon. Quant au député RN Pierre-Henri Carbonel, il est lui-même éleveur et il ne fait pas dans la nuance, convoquant quelques images marquantes.
Au lieu d'aller voir les agriculteurs, vous leur avez envoyé les blindés et les hélicoptères. On est revoir les mêmes moyens déployés contre la DZ Mafia. Voilà la phrase d'Emmanuel Macron. Fort avec les faibles, faible avec les forts.
Et puisque la meilleure défense est l'attaque, Sébastien Lecornu monte lui-même au créneau. Le Premier ministre dénonce d'abord la violence d'une cinquantaine de militants d'ultra-gauche.
Les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France insoumise.
Mais sur le fond, le Premier ministre sait que son gouvernement doit agir très vite, faire retomber la tension et répondre à l'inquiétude des agriculteurs. Alors, le ton baisse. Ce matin, vous l'avez dit, Sébastien Lecornu annonçait vouloir accélérer la vaccination. C'est une urgence, reconnaît-il dans l'hémicycle.
L'urgence absolue, précisément, c'est d'accélérer cette vaccination. Et pour cela, on a besoin de doses. On a besoin de lever un certain nombre de freins logistiques parce que c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème d'acquisition. Les commandes ont bien été passées. Maintenant, on a un problème d'aller vers et de disponibilité de ces doses au plus près, justement, de nos élevages. On a besoin de bras également pour vacciner.
Voilà, le Premier ministre annonce la mobilisation des vétérinaires de l'armée. D'autres mesures doivent être annoncées dans la soirée après la réunion qui se tient depuis 17h30 à Matignon.
Merci à vous, Nicolas Ballu, en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. La filière agricole et les déclarations de ses représentants syndicaux en attestent, vit une semaine chargée d'enjeux déterminants. Ils appellent d'ailleurs à manifester après-demain à Bruxelles, jour d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement, avec au sommaire le traité du Mercosur que la Commission européenne ambitionne de signer, il faut le rappeler, dès samedi au Brésil. Le traité du Mercosur dont se sont saisis cet après-midi les députés européens avec à Strasbourg l'examen de ces fameuses clauses de sauvegarde avec à la clé un vote. Anya Vogel.
Une arnaque, un mensonge, un pansement sur une jambe de bois avait mis en garde l'écologiste David Cormann, et pour une fois, tous les députés européens français, de gauche comme de droite, sont unanimes pour dire que même renforcées, les clauses de sauvegarde ne seront pas suffisantes, qu'il n'y aura pas de vraie réciprocité des échanges, pas assez de moyens pour les contrôles. Tout s'annonçait un vote serré, or c'est avec une confortable majorité de 431 voix contre 161 que le texte a été adopté, à la satisfaction de l'Allemand Bernd Lange, qui préside la commission du commerce international du Parlement européen.
Je suis très satisfait de ce vote. Nous avons clairement montré que nous voulons cet accord, mais accompagné d'un filet de sécurité, en particulier pour le secteur agricole, pour lequel nous disposons des ressources nécessaires. C'est un bon accord pour les produits laitiers, le fromage, le vin. La signature est prévue pour le 20 décembre. Le Conseil a quelques jours pour trouver une majorité qualifiée. Sinon, si on ne peut pas signer samedi, l'accord sera mort. Et alors, on pourra arrêter complètement notre politique commerciale dans l'Union européenne.
Et Bernd Lange de souligner que cette politique commerciale a rapporté 70 milliards d'euros d'excédent à l'UE l'an dernier. Tous ces efforts portent désormais à faire basculer l'Italie dans le camp de l'Allemagne, de l'Espagne et des pays nordiques, et d'empêcher ainsi une minorité de blocage mené par la Pologne et la France. Car le Parlement européen devra également donner son feu vert à l'ensemble de l'accord. Ce sera a priori en mars prochain, s'il est signé.
Anja Vogel au Parlement européen à Strasbourg. Au programme de la visite du chef de l'État à Marseille, il y avait toutes les thématiques qui nomment la vie en société, les soubassements d'une communauté politique, l'éducation, le logement, les transports, la santé, l'emploi, la culture et ce qui l'anémie, la détruit, le trafic de stupéfiants qui plonge la ville dans un cauchemar larvé, un trafic qui a coûté la vie à Mehdi Kessassi, pardon, assassiné il y a un mois, sans doute pour intimider son frère Amine, militant qui dénonce l'emprise des réseaux de trafic de drogue. Emmanuel Macron, qui s'est recueilli sur la tombe de Mehdi Kessassi, a également inauguré un nouveau commissariat de la ville et entre autres annoncé l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue qui va passer à 500 euros contre 200 euros. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité auprès des Marseillais que vous avez rencontrés dans le 13e arrondissement au nord de la ville, Alexis Arad.
À quelques mètres du commissariat flambant neuf du 13e et 14e arrondissement, Jean-Lucien, habitant du quartier, voit la mesure d'un bon œil.
C'est un début. Il faut quand même faire quelque chose parce que ça peut plus durer. Ça se développe d'année en année et ça ne fait qu'augmenter pour les stopper. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre.
Mathieu, jeune étudiant à l'IUT, tout proche, réfléchit un instant à cette amende majorée, puis acquiesce.
C'est vraiment une bonne chose. De 200 à 500, c'est pas négligeable. Franchement, pourquoi pas, ouais. C'est sûr qu'il y en a qui passent à travers. Ça peut être une solution, mais je pense pas que ce soit vraiment le fond du problème.
C'est vrai qu'ici, dans les quartiers nord de Marseille, les consommateurs, ce n'est pas la priorité des habitants. Camille réagit avec beaucoup de scepticisme.
Renfouler les caisses de l'État avec de l'argent pris aux consommateurs ne réglera jamais la solution, parce qu'interdire, visiblement, ça n'a jamais arrêté personne, pareil avec la cigarette.
Et quitte à diriger les actions vers les consommateurs, elle préfère d'autres méthodes.
Ouvrir des centres addictos, faire de la prévention, aider des gens qui, de toute façon, n'ont rien d'autre pour leur vie. On tombe là-dedans, pas par plaisir.
Tous sont d'accord, l'augmentation de l'amende seule n'est qu'une infime partie de la lutte contre le narcotrafic. Beaucoup rejettent même une simple mesure de façade.
Alexis Arad à Marseille. La Cour de cassation rend définitive la condamnation de Marine Le Pen pour diffamation envers la CIMAD, une association d'aide aux migrants, qu'elle avait accusée d'organiser, je cite, « la filière d'immigration clandestine en provenance des Comores à Mayotte ». Fin de citation. Condamnation à 500 euros d'amende. Mayotte, dont la reconstruction est laborieuse, un an après l'ouragan Chido, avec un fait de justice qui n'arrange rien au climat de défiance qui pèse sur sa classe politique. Le maire de la deuxième ville du 101e département français, le maire de Kungu, était condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis, et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour favoritisme et détournement de fonds publics à 3 mois des élections municipales. Il est 18h09. Vous écoutez le journal de France Culture. Au terme de 4 semaines de débats et après les plaidoiries des parties civiles, les 2 représentantes du parquet national antiterroriste ont pris leur réquisition cet après-midi à l'encontre des 8 prévenus et de la société Lafarge en tant que personne morale jugée pour financement d'entreprises terroristes et pour certains aussi pour non-respect de sanctions financières internationales. Le cimentier est soupçonné d'avoir payé des groupes djihadistes djihadistes en Syrie jusqu'en 2014, dont l'État islamique, dans le but d'y maintenir son activité en dépit de la guerre civile qui faisait rage. Les argumentaires de ces prévenus n'ont que très peu convaincu le ministère public qui demande des peines d'emprisonnement ferme, jusqu'à 8 ans de prison ferme, 6 ans ferme pour l'ancien PDG de la société Bruno Lafont. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm au Palais de Justice de Paris.
En 2014, à Djalabiya, la Farge était au cœur du djihad global, commence Aurélie Valente. Le terrorisme djihadiste, c'était déjà des enfants qu'on assassine, des otages que l'on égorge, poursuit la procureure. Nous ne sommes pas dans une affaire financière. Le seul fait de faire parvenir des fonds à une entreprise terroriste constitue un financement du terrorisme. Ces fonds ont contribué au maintien des capacités opérationnelles de 3 organisations. Plus de la moitié est allée dans les caisses du groupe État islamique, poursuit Olga Martin-Beillard. Un total de 4 694 000 euros, assène encore la procureure, quand on sait que le budget des attentats de 2015 en France représente 108 000 euros, qu'avec 4 millions, il y a de quoi payer plus de 3 000 djihadistes pendant un an. Des faits d'une extraordinaire gravité par leur montant, par ce cynisme commercial, aucun regret, aucune remise en cause de leur responsabilité chez les prévenus, insistent les représentantes du PNAT, ce qui justifie à leurs yeux la nécessité d'une peine de prison ferme. 6 ans requis pour Bruno Lafont, l'ancien PDG de Lafarge. 5 ans à l'encontre de son numéro 2, Christian Hérault, et Bruno Pécheux, l'ancien directeur de la cimenterie, avec pour tous les 3, 225 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer une activité commerciale pendant 10 ans. Frédéric Jolibois, lui, ne sera resté que 2 mois en Syrie avant l'arrêt de l'usine. Le parquet requiert 1 an aménageable sous surveillance électronique. Enfin, 8 ans de prison pour le Syrien Firas Klas, l'homme qui a joué les intermédiaires, grand absent de ce procès, désormais réfugié aux Émirats Arabes Unis.
Et à ce procès, la parole est pour les 3 prochains jours à la Défense. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. Une entreprise française d'une envergure comme celle de Lafarge aurait commercé avec une organisation terroriste comme Daesh. Voilà qui interroge sur la puissance de cette organisation qui a un projet global. Tout en envahissant les esprits jusqu'à les conduire à des ensauvagements individuels, individués. En témoignent les appartenances des 2 auteurs du massacre antisémite de Bondi Beach dimanche dernier en Australie. Après avoir retrouvé un drapeau l'État islamique dans leur voiture, les enquêteurs s'intéressent à leur séjour récent à Mindanao, dans le sud des Philippines, une île marquée par la rébellion islamiste et où subsistent des groupes affiliés à Daesh. Pour le Premier ministre australien, Anthony Albanese, les 2 hommes étaient probablement motivés par l'idéologie du groupe État islamique, une organisation loin d'avoir disparu après la chute en 2019 du califat installé en Irak et en Syrie. Claude Guibal.
L'organisation État islamique n'a plus aujourd'hui de territoire. C'est un réseau mondial éclaté, moins visible, mais toujours capable de frapper. Sur l'île philippine de Mindanao, où les auteurs de l'attentat de Sydney ont séjourné le mois dernier, le groupe est très affaibli, sous forte pression militaire, essentiellement un réseau de radicalisation et de légitimation, plus qu'une force capable de mener de grandes opérations. L'attentat n'a d'ailleurs pas été revendiqué par l'organisation, à la différence de l'attaque qui a tué 4 membres des forces de sécurité syriennes dimanche à Idlib, où Washington accuse l'État islamique d'être aussi derrière la mort la veille de 3 Américains tués à Palmyre. Derrière ces violences, une rivalité directe entre l'État islamique et le nouveau pouvoir syrien incarné par Ahmed el-Shara, ancien djihadiste devenu chef de l'État. L'objectif n'est donc pas de reconquérir un territoire, mais de déstabiliser la transition et rendre le pays incontrôlable. Mais le Proche-Orient n'est plus l'épicentre de Daesh. Le centre de gravité du groupe s'est déplacé vers l'Afrique, le Sahel, et surtout vers l'Afghanistan et le Pakistan, où est implanté l'État islamique au Khorasan, la branche désormais jugée la plus dangereuse, à l'origine d'énormes attentats meurtriers en Russie et en Iran. Elle serait aussi à la manœuvre derrière plusieurs attentats déjoués sur le territoire français ces dernières années.
La Commission européenne assouplit son objectif zéro émission nette pour les voitures neuves fabriquées en Europe à l'horizon 2035. Une tolérance de 10% sera introduite pour les autres motorisations qui resteront autorisées à condition que leurs émissions soient compensées par des processus de fabrication plus vertueux d'un point de vue environnemental. Les précisions de Fabien Cazot à Bruxelles.
2035 ne signera pas tout à fait la fin des voitures thermiques neuves en Europe, puisque la Commission européenne ouvre ce soir la porte à ce qu'il reste 10% d'émissions de CO2 résiduelles du fait de véhicules hybrides ou thermiques qui resteront autorisés sous deux conditions. D'abord, que leur carrosserie soit fabriquée à partir d'acier vert décarboné produit en Europe. Ensuite, que ces véhicules roulent avec des carburants durables, biocarburants ou carburants de synthèse, responsables de moins d'émissions de CO2 que les carburants traditionnels. Un arbitrage équilibré, à en croire le commissaire européen à l'industrie, Stéphane Séjourné.
L'Europe remet-elle en cause les objectifs climatiques ? La réponse est non. C'est un cap clair, maintenu et assumé. Par contre, les modalités de calcul changent. Toutes les émissions supplémentaires potentielles générées par ces flexibilités devront être pleinement compensées en amont.
Selon la Commission européenne, ce sera donc un jeu à somme nulle, un accord gagnant-gagnant arraché par l'industrie automobile européenne qui emploie tout de même 13 millions de personnes en Europe et qui alerte depuis plusieurs mois sur la dégradation de la conjoncture économique sous l'effet des prix de l'énergie et des droits de douane décrétés par Donald Trump aux États-Unis. L'exécutif européen estimant pour sa part que passer d'un objectif de moins 100% à moins 90% ne remet pas fondamentalement en cause la tendance de fonds déjà engagés pour les 10 prochaines années.
Ce plan automobile Union européenne avec la réaction de Greenpeace qui dénonce, je cite, une mauvaise nouvelle pour le climat. L'information nous est parvenue hier en fin de journée. Ce soir, nous sommes en mesure d'être plus précis. Il s'agit de l'état de santé de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Son comité de soutien affirme que les autorités iraniennes refusent un examen médical indépendant alors qu'elle dit avoir été frappée à coups de matraque par la police lors de son arrestation la semaine dernière. Narges Mohammadi connaît une nouvelle fois l'univers carcéral de la République islamique. Ses proches et ses soutiens s'inquiètent de son état de santé. Les précisions de Christian Chesneau.
Selon l'un de ses frères, Narges Mohammadi a des ecchymoses au cou et au visage, des blessures qui lui ont été infligées lors de son arrestation brutale vendredi dernier à Machad, alors qu'elle participait aux funérailles d'un avocat militant des droits humains décédé dans des circonstances troubles. Elle avait alors déclaré être la voix des sans-voix, saluant tous les combattants de la liberté en Iran. À Paris, son avocate française, Maître Shirin Ardakani, craint que ce nouveau séjour en prison n'affecte gravement sa santé déjà fragile.
Narges Mohammadi a des antécédents médicaux qui sont extrêmement importants. Elle a été libérée au bénéfice d'une permission médicale à l'hiver dernier. Ça fait un an, en réalité, tout juste qu'elle était en rémission pour une tumeur qui lui avait été décelée à la jambe. Son état de santé est donc préoccupant. Nous savons qu'en détention politique, elle n'a pas accès à des soins adéquats, en temps utile. Et donc, c'est une mort à petit feu à laquelle elle s'expose de nouveau si elle était réincarcérée pour de bon.
Lors d'une brève conversation téléphonique hier avec l'un de ses frères, Narges Mohammadi dit ne pas savoir où elle est détenue et réclame un avocat pour sa défense, signe d'une combativité intacte, estime ses proches.
Amnesty International appelle les États à ne pas renvoyer d'Afghans en Afghanistan en raison des violations des droits humains dans ce pays et de la sévère crise humanitaire. Le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire cet hiver en Afghanistan est en augmentation avec plus de 17 millions de personnes concernées selon le Programme alimentaire mondial. Une lettre d'excuse n'a pas suffi à calmer Donald Trump. Le président américain a porté plainte contre le groupe audiovisuel public britannique, la BBC, et réclame 10 milliards de dollars, notamment pour diffamation. Il l'accuse d'avoir réalisé un montage vidéo trompeur. Gaëlle Joly nous appelle de Londres.
Dans cette plainte publiée in extenso par le journal The Telegraph, Donald Trump estime que la BBC a intentionnellement, malicieusement et de manière trompeuse modifié son discours lors de l'émission Panorama une semaine avant la présidentielle de 2024. Le milliardaire s'en est de nouveau plaint hier devant la presse à Washington.
Je poursuis la BBC pour m'avoir fait dire des choses que je n'ai pas dites. Littéralement, ils m'ont fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Et ils ont été pris la main dans le sac parce que je crois que quelqu'un à la BBC a dit que c'était tellement grave qu'il fallait le signaler. Appelons ça de la désinformation.
Le président américain réclame donc 10 milliards de dollars pour diffamation et violation de la loi floridienne sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Il y a quelques semaines, la BBC a reconnu avoir monté ensemble des propos distincts qu'il avait prononcés lors de l'assaut au Capitole. L'affaire a poussé à la démission son directeur général et sa patronne de l'information. Son président, Samir Shah, avait même envoyé une lettre d'excuse à Donald
Donald Trump, reconnaissant une erreur de jugement, sans réussir à l'apaiser. Il annonce aujourd'hui que la BBC va se défendre, sans en dire plus sur la procédure judiciaire en cours.
Quelques mots de la météo pour refermer ce journal. Un temps plus sec fait son retour. Quelques pluies possibles le matin vers le golfe du Lion et la Haute-Corse, mais de belles éclaircies se développent par la suite. Sur le reste du pays en matinée, le temps est bien gris avec des brouillards, notamment en vallée de la Garonne, en Poitou-Charentes, en Pays de la Loire, en Centre-Val de Loire, en Val-de-Saône et en Alsace. Il est bientôt 18h20. Ce journal a été préparé avec Alison Vicrebec à la technique Paul Guigues.